Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Véronique Rigolet.
Bonjour à tous, bienvenue dans Mardi Politique. C'est l'ancien ministre Brice Hortefeux qui nous accompagne ce soir sur RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également vice-président de l'UMP, député européen, tête de liste pour les européennes dans la région Centre, et également président de l'association Les Amis de Nicolas Sarkozy. Pour vous interroger ce soir à mes côtés, Bernard Pellegrin de l'AFP et Alain Auffray de Libération. Bienvenue à tous.
Bonsoir. Bonsoir.
Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les perspectives de reconquête pour l'UMP après la fameuse vague bleue aux élections municipales. Mais pour commencer, c'est bien sûr l'info de cette journée, le vote de confiance accordé par l'Assemblée nationale à Manuel Valls par 306 votes au terme d'un grand oral, d'un baptême du feu pour Manuel Valls, une semaine jour pour jour après sa nomination à Matignon. Le Premier ministre s'est fendu d'un long discours, 47 minutes, devant l'Assemblée nationale, discours de politique générale, dans lequel il a détaillé les mesures envisagées pour redresser les comptes de la France après avoir décrit la situation d'urgence, a-t-il dit, de notre pays.
Mesdames et messieurs les députés, trop de souffrance, pas assez d'espérance, telle est la situation de la France. Et c'est conscient de cette réalité que je me présente devant vous. Les Français nous regardent. Ils attendent beaucoup de nous. Et mon devoir, c'est de me hisser à la hauteur de leurs exigences.
Voilà, et pour répondre à l'exigence des Français, le Premier ministre entend mettre en œuvre le fameux pacte de responsabilité et son train d'économie de quelques 50 milliards d'euros. Objectif, stimuler la croissance en baissant notamment le coût du travail pour les entreprises, mais tout en faisant un geste également en faveur des salariés les plus modestes au nom de la justice sociale. Brice Hortefeux, on va bien sûr revenir sur les détails de ce discours, mais globalement, comment avez-vous aujourd'hui jugé la prestation très volontariste de Manuel Valls ?
Ben écoutez, je pense que rarement un exercice n'aura aussi bien porté son nom, discours de politique générale. C'était effectivement un discours
trop général,
avec beaucoup de mots, beaucoup de sonorités et quelques formules réussies. Et c'était ensuite politique, puisqu'il a adressé signaux, clins d'œil, en se tournant vers ce qu'il espère devenir sa majorité. Et puis général, parce que franchement, c'est un discours plastique, élastique. Ce qui est annoncé, ça va pour la période de 2014 à 2025. Et d'ailleurs, ce qui est compliqué, c'est renvoyer plutôt à l'après-quinquennat. Et pardon de vous le dire, aujourd'hui, le problème, ce sont les fins de mois, pas l'après-quinquennat. Donc c'était effectivement un discours de politique générale.
Il y a pourtant des choses qui vous parlent dans ce discours, la baisse du coût du travail pour les entreprises, ça sonne aimablement à vos oreilles, j'imagine.
Oui, il y a une partie qui était assez sensible et qui personnellement m'a plu, ce sont ses références personnelles. Le parcours de Manuel Valls, à l'évidence, est un parcours qui peut susciter l'intérêt et dans un certain nombre de cas, on peut même en tirer des leçons plus générales. Donc quand il a évoqué, alors qu'il était ému, j'imagine en pensant à sa famille, en pensant à son parcours, en pensant
battant,
à sa famille arrivée d'Espagne.
Si j'ose dire, c'est le côté hongrois de Manuel Valls qui vous plaît.
Bernard Pellegrin, le petit français de son mêlée en fait.
Si vous voulez me rappeler tout de suite que j'étais sarkozyste, oui, et donc il y a des discours de Nicolas Sarkozy qui m'ont aussi effectivement fortement marqué. Chacun a retracé son histoire, son périple, et cette partie-là était assez émouvante. Et d'ailleurs, lui-même, on l'a senti dans les intonations de sa voix, était assez ému. Et pour le reste, je vous le dis, il y avait beaucoup d'annonces pas pour tout de suite, d'annonces pour demain, sans qu'on connaisse à aucun moment le financement.
Alain Auffray.
Il y a au moins un point qui n'a pas été si général que ça. Et vous qui avez été ministre en charge des collectivités territoriales, vous avez peut-être été sensible. C'est cette révolution quand même qui nous propose, avec le nombre de régions divisé par deux, avec la suppression du département. Autant de propositions d'ailleurs qui sont défendues ardemment par des responsables de votre famille politique, Raffarin pour ce qui concerne les régions et Jean-François Copé pour ce qui concerne les départements.
Oui, écoutez, je veux bien prendre ça, mais il faut le reprendre précisément. Vous évoquez ce qui a été proposé pour les collectivités locales, là, franchement, les bras vous en tombent sur certaines mesures. Nous avions proposé la création du conseiller territorial, qui aboutissait en réalité à deux choses, une simplification dans les compétences et la diminution du nombre des élus territoriaux. Diminution de près de 40%. Pour ceux qui l'ont un peu oublié, il s'agissait de regrouper les mandats de conseillers généraux et de conseillers régionaux et de diminuer le tout de 40%. Première mesure prise par le gouvernement, et ça a été de supprimer ce texte, de voter l'annulation de ce texte, et donc, première mesure, augmenter de 40% les élus territoriaux. Bon, donc c'est le premier élément qui vous laisse assez pantois. Deuxième élément, quand j'avais porté ce texte, nous avions proposé la suppression de la clause de compétence générale, qui permet en été, là aussi, pour qu'on comprenne, à chaque niveau de collectivité, de se mêler de tout et parfois de rien. Enfin, la tentation, c'est surtout de tout. Des cris d'orfraie dans le gouvernement, enfin dans la majorité de l'époque, dont le gouvernement allait être issu, dans l'opposition de l'époque, dont le gouvernement allait être issu après l'alternance. Donc, cris d'orfraie. Et là, aujourd'hui, on nous annonce que l'on revient sur cette disposition. Donc, je rappelle, ils ont voté contre la clause de compétence générale, la suppression de la clause de compétence générale avant 2012. Ils ont donc rétabli la clause de compétence générale après 2012. Et en 2014, d'accord, ils proposent la suppression de la clause de compétence générale.
Donc ils corrigent leurs erreurs, vous le saluez d'une certaine manière.
Oui, mais ouais. Vous avez raison, c'est un vieux principe. Le plus grave n'est pas de commettre une erreur, c'est de persévérer. On connaît tout ça pour excuser cela. Mais en réalité, c'est quand même un exercice gymnastique invraisemblable. Bon, donc, vous savez, quand même, ce qui est assez frappant d'ailleurs dans ce discours, au-delà de cet exemple assez bien choisi des la compétence des collectivités territoriales, c'était une phrase, moi, qui m'a beaucoup plu et que je vous cite. Citée par le Premier ministre. Les Français se sont prononcés contre l'impuissance politique. Ils veulent des résultats. Écoutez, franchement, Manuel Valls en était. Il condamne donc sa propre action. L'impuissance, condamnation de l'impuissance politique. C'est donc lui-même qui se condamne.
Et franchement, vous faites référence essentiellement au résultat des municipales.
Oui, mais
moi, je voudrais vous poser une question.
Il condamne l'impuissance politique. Il n'est pas la jeune mariée vierge.
Non, certainement.
Hein, il était sur ce qui dedans. Le mariage était consommé.
Au Big Bang des départements, on peut considérer que c'est de la disparition des départements. On peut considérer que c'est un pétard mouillé, ou on peut considérer que c'est juste remis au calendrier grec, puisqu'effectivement, il
c'est
2021. Voilà.
À l'horizon.
En même temps, on peut aussi considérer, j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, sur le fait que supprimer les départements, c'est quand même, dans l'espace historique et culturel français, quelque chose de considérable, que mettre 7 ans pour y arriver, c'est pas si énorme que ça, et que par ailleurs, à supposer que au cours des prochaines présidentielles, l'alternance joue à nouveau, c'est pas complètement idiot d'engager non plus la future majorité. Donc il y a quelque chose d'assez habile dans tout ça, et qui au bout du compte peut effectivement parvenir à faire à supprimer les départements.
Oui, écoutez, moi, d'expérience, parce que hélas, j'avance un petit peu en âge, encore un peu de marge, mais j'espère, mais d'expérience, on s'aperçoit que les grands soirs, c'est jamais cela. Et le principe qui consiste à annoncer une réforme et expliquer qu'elle se fera avec une équipe après un scrutin présidentiel, franchement, je trouve ça, comme vous l'avez dit peut-être vous-même, innocemment, habile. Mais est-ce que c'est juste et efficace? Ça, c'est une autre histoire.
Vous pensez qu'on peut supprimer les départements en 6 mois, 1 an, 2 ans?
Je pense que quand la décision est prise, oui. Et donc, s'ils pensent qu'il faut supprimer les départements, qu'ils le fassent et qu'ils le fassent tout de suite, mais qu'ils ne disent pas de manière à contenter tout le monde. Et encore une minute, monsieur le bourreau. C'est-à-dire, on annonce la mesure et on la reporte après l'élection, après le scrutin présidentiel. Vous savez, ça, c'est des grosses ficelles.
Vous avez fait un peu la même chose, d'ailleurs, parce que le conseiller territorial, qui était sans doute une mesure qui va dans le sens de ce que propose aujourd'hui le gouvernement, donc vous avez raison de le signaler, mais vous-même, vous l'avez pas, vous auriez pu le mettre en œuvre à l'occasion des régionales de 2010.
Non, 2009. C'était pas voté.
Oui, vous auriez pu le faire avant.
Non, c'était pas voté. Nous, précisément, la grande différence, c'est que non seulement on l'a annoncé, mais en plus, on l'a fait voter. Il a fallu une autre loi pour annuler ça. Donc nous, le principe était totalement différent. Maintenant, sur le rôle des collectivités, sur la taille des collectivités, bien sûr qu'il y a des choses à dire. Et soit on considère le département comme simplement un tiroir, ou un tiroir-caisse, ou pour une expression plus positive, un guichet de prestations sociales. Soit on considère que c'est toujours une collectivité de proximité, soit on considère qu'il faut la faire évoluer. Encore une fois, nous, nous avions pris une mesure qui était une mesure lisible et compréhensible. On fusionnait les élus régionaux et départementaux, on diminuait le nombre total de ceux-ci, et cela faisait une réforme qui était digérable, qui n'était pas violente, mais qui était révolutionnaire dans son application.
Un discours de politique très général, dénonciez-vous, il y a quelques instants. Qu'est-ce qui a manqué dans ce discours? Plus de détails sur, notamment, je sais pas, le pacte de responsabilité. Sur quoi auriez aimé, vous, avoir plus de précisions, donc, concrètement?
Ce qui est très important, c'est naturellement la dépense, mais ce sont aussi les recettes et les économies. Là, aujourd'hui, personne ne peut contester qu'on ne sait absolument pas et sur quoi vont porter les
économies. Il y a quelques précisions, il n'y aura pas de hausse d'impôts.
Oui, non, mais attendez, on sait qu'il y aura 10 milliards sur les collectivités, 10 milliards sur l'assurance maladie, 19 milliards sur les dépenses de l'État, et 11 milliards, on ne sait pas où d'ailleurs. Donc c'est quand je dis on sait, non, on ne sait pas, parce qu'il y a 11 milliards, on n'a pas eu du tout d'éléments. Bon. Mais pour le reste, si vous êtes capable de m'en dire plus, vous êtes formidable, c'est parce qu'on ne le sait pas. On nous a donné des ordres de grandeur, par exemple, sur la politique en matière de fonction publique. Quelle est exactement la ligne qui sera suivie? Je n'ai pas compris. Et j'ai entendu le président de la République dire il y a quelques jours le cap est maintenu. Et est-ce que vraiment le cap est maintenu en matière d'embauche de fonctionnaires? J'en sais rien.
Pour tenir ce programme, il va falloir tailler dans la masse salariale, peut-être revenir sur des engagements que le gouvernement a pris, peut-être reprendre vos engagements à vous, à savoir le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux.
Très vraisemblablement. Très vraisemblablement. Vous savez, au-delà, ce discours, naturellement, c'est un temps important dans la vie civique, économique, sociale de notre pays. Mais la réalité, quelle est-elle? C'est que ce gouvernement s'est trompé en 2012. Il s'est trompé en trompant d'ailleurs un peu les Français, puisqu'il a dénié la réalité de la crise. Et je vous rappelle que dans le discours de François Hollande pendant la campagne présidentielle, vous n'avez pas eu une seule fois, le mot compétitivité qui avait été prononcé, alors que le problème majeur de notre pays, c'est précisément la compétitivité. Et les choix qui ont été faits depuis, dans le déni de la crise, dans le déni des enjeux, ont abouti à ce que nous nous orientions, nous, Français, dans un sens exactement inverse de nos principaux partenaires. Et je vous rappelle que nous avons aujourd'hui le record de demandeurs d'emploi, 5 200 000 demandeurs d'emploi, que nous avons le record de prélèvements obligatoires, plus de 46%, c'est-à-dire que pour 100 jours travaillés, 46 sont reversés sous forme d'impôts, cotisations et taxes, que nous avons le record de défaillances d'entreprises, 63 000, que nous avons le record de déficit du commerce extérieur, 63 milliards, que nous avons le record de la dépense publique, 57,1% du PIB, c'est-à-dire...
C'est pour ça que peut-être qu'on a un nouveau Premier ministre pour changer
plus,
ça, non?
C'est-à-dire 7 points de plus que la moyenne européenne et 10 points de plus que nos partenaires allemands. Et je pourrais continuer cette liste, baisse de 77% des investissements internationaux dans notre pays. Et hélas, si je continue, je crains... Non, mais c'est pas tellement ça. C'est qu'au fur et à mesure que j'égrène ces chiffres, vous avez raison, je sens que ça vous attriste. Mais la réalité, c'est que vous avez raison d'être triste, mais il ne faut pas l'être définitivement, parce que nous avons des partenaires qui, eux, font le chemin inverse. Si vous regardez ce qui se passe en termes d'emploi en Allemagne, 5,7%, et je pourrais citer... Mais si vous prenez l'Angleterre, si vous prenez l'Espagne, si vous prenez l'Italie, vous voyez les pays qui sont...
Donc je termine juste.
Aujourd'hui, nous nous courbons, les autres, nos partenaires, se redressent. Et il y a des raisons à cela, ce n'est pas dû au hasard.
Mais revenons à Manuel Valls. Dans son propre camp, quand il a été nommé, un certain nombre de gens, dans son camp au Parti Socialiste, ou bien en dehors du Parti Socialiste, ont dit, voilà, c'est un social-libéral. Est-ce que malgré tout, dans ce discours qui effectivement remet la compétitivité, remet un certain nombre de fondamentaux au centre des préoccupations gouvernementales, il n'y a pas des choses auxquelles vous adhérez? Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, une partie de l'opposition ne peut pas se dire « oui, là-dessus, on est d'accord ». Et je ne parle pas de Monsieur Frédéric Lefebvre qui voulait... Non, je parle de voilà.
Mais pourquoi il fait partie de l'opposition aussi? Juste une remarque, vous dites, quand Manuel Valls a constitué son gouvernement, et il y a eu effectivement déjà un aspect historique dans la constitution de son gouvernement. Historique. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'un gouvernement est contesté avant même sa constitution, est contesté de surcroît par sa propre majorité. Moi, j'ai vu des gouvernements qui se créaient, qui étaient contestés par l'opposition une fois qu'il était créé, en fait, une fois qu'il était constitué. J'ai vu des gouvernements qui faisaient un peu râler l'opposition, sa propre majorité quand il était constitué. Mais un gouvernement qui est contesté avant même qu'il soit constitué par sa propre majorité, jamais vu.
Vous voulez dire
ça,
quoi?
Ça, déjà, c'est l'historique.
Que le Premier ministre est affaibli d'ores et déjà?
J'ai trouvé que ça démarrait sur des bases curieuses, et d'ailleurs confirmées dès la constitution du gouvernement, avec l'épisode curieux, là aussi, inédit, de la compétence sur le ministère du Commerce extérieur. Franchement, entre la veille de constitution du gouvernement et l'après-midi de la constitution du gouvernement, on n'a pas été déçus. Maintenant, si vous me dites qu'il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens, oui, dans ce qui va dans l'allègement, ça c'est sûr, on est tout à fait pour. Simplement, on est tout à fait pour, à condition qu'on nous dise comment c'est financé. Parce que la seule chose que l'on ait comprise clairement sur ce sujet, c'est qu'il y a toujours les 55 milliards d'économies, les 50 milliards d'économies, auxquels il convient de rajouter les 5,3 milliards d'allègements sur les bas salaires. Donc on n'est plus déjà à 50 milliards, on est à 55 et plus. Sans que l'on sache comment cela sera financé. Donc non, on ne peut pas cautionner cela.
Alain Onfray.
Mais est-ce que vous pouvez comprendre plutôt que certains dans votre famille politique, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur du pays, etc., et que tout ça va finalement, même si ce n'est pas toujours très cohérent dans le bon sens, aille jusqu'à voter un texte socialiste, un texte de ce gouvernement sur donc le pacte de responsabilité. Est-ce que vous pouvez le concevoir? Est-ce que vous, alors, il y avait le nom de Frédéric Lefebvre qui a été prononcé, c'est vrai, c'est assez remarquable. Il a fait plusieurs, peut-être vous l'avez pas remarqué, mais il a fait plusieurs déclarations pas forcément fortement reprises, mais enfin qui existent et où il dit que lui il est prêt à voter. Il est sans doute pas le seul. Raffarin l'avait dit aussi, Jean-Pierre Raffarin.
Non, Jean-Pierre Raffarin avait dit chiche, pas tout à fait la même chose. Mais si vous voulez, moi ce que je regrette, je vous le dis, c'est que ce discours était fait pour plaire, mais pas pour faire. C'est ça la réalité. Discours pour plaire, oui, bien sûr. Tout ce qui a été énoncé, je rebondis et je confirme ce que vous dites. Mais ce n'était pas pour faire, puisque pour faire, il faudrait que l'on sache comment on finance. Et on ne le sait pas.
Est-ce qu'il y a quelques annonces qui vous ont peut-être, en tout cas, réjoui, les assouplissements promis sur la réforme des rythmes scolaires, ou alors le calendrier très flou, cette fois, pour une réforme qui vous tient à cœur, la réforme pénale?
Oui, mais pardonnez-moi, moi je suis très déçu. Cette réforme pénale, honnêtement, c'est une mauvaise réforme. Mauvaise. Qui va dans la mauvaise direction. Qui adresse de mauvais signaux. Et donc, il fallait y renoncer. L'exigence, c'était de prendre acte de ce qu'ont dit les Français sur des choix locaux et sur des choix nationaux.
Est-ce que la renvoyer à un consensus, c'est pas y renoncer quelque part?
Eh ben, écoutez, qu'ils le disent, alors. Pas de faux semblants. Si c'est pour la jeter aux oubliettes, que ça soit dit et que ça soit dit clairement. Et je vous promets, si le Premier ministre dit c'est à jeter et les Français n'en veulent pas, nous en prenons acte, eh ben je dirais très bien, c'est tardif, mais vous connaissez mieux vaut tard que la suite. Bon, donc je le dirais. Mais là, c'est absolument pas. On essaie de noyer le poisson. Encore une fois, c'est la très grande élasticité, vraiment dans tous les sens. Et on le fera, mais peut-être pas. Et cette réforme, on la fera, mais ça sera pour après. Je vous dis, le problème, c'est la fin de mois, pas l'après-quinquennat.
Voilà, c'est en tout cas la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans quelques minutes, toujours avec Brice Hortefeux. Juste après les infos, nous parlerons de l'avenir de l'UMP.